À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Fin de la trêve hivernale, des demandeurs d'asile restent sans solution de logement. Le collectif Solidarité Migrants alerte. Nouvelle immersion dans le savoir-faire local avec notre partenaire La Voix de l'Ain. Suivez-nous dans l'atelier création bois Les Poissons Rouges à Meillonnat. Vous entendrez aussi Vincent Gau, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain. Et quelques infos en bref à la fin de ce magazine.
Le 31 mars dernier, qui en fait est le dernier jour du plan froid, qui est censé mettre à l'abri les personnes qui sont à la rue, le collectif Solidarité Migrants de Bourg invitait la presse et les radios à une conférence de presse. Pendant l'hiver, des personnes ont trouvé refuge sous le kiosque des Quinconces à Bourg. Ils ont été délogés par la police à deux reprises. Deux militants du collectif disent pourquoi ce rassemblement et plusieurs migrants racontent. Vous excuserez le vent qui s'invite quelquefois dans le micro.
Je suis là pour défendre les droits vitaux de tous ceux qui sont ici, quoi. Donc un logement, de la nourriture et des conditions décentes de vie.
Je viens de la Guinée-Conakry. Donc j'étais à Clermont-Ferrand. Donc l'OFI m'a transféré ici. Du coup, je suis venu me présenter à Alpha Touaza en donnant tous mes dossiers. Ils ont dit que bon, il n'y a plus de place pour moi ici, quoi. Donc je suis venu m'installer ici, j'ai fait deux semaines ici, quoi.
Sous la fraîcheur,
j'ai fait deux semaines du 15 janvier au 30 janvier, donc je dors ici.
Vous avez téléphoné au 115 et pour une fois on vous a trouvé un lieu d'hébergement qui est rue de Brou. Et vous êtes resté combien de temps là-bas?
Pour la première fois, donc je l'ai téléphoné, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de place pour moi parce que je suis demandeur d'asile. Donc je n'ai pas le droit de rester ici, quoi. Donc tu vois. Donc je l'ai appelé maintes fois. Donc du coup, c'est grâce à Marie et puis Philippe. Donc ce sont eux qui les ont téléphonés maintenant. Donc ils nous ont pris en charge maintenant pendant un mois.
Donc vous avez pu dormir à l'abri. Et là, on est le 31 mars. Et donc qu'est-ce qu'on vous dit?
Donc ils nous ont rien dit. Ils nous ont dit que le mardi, on doit sortir là-bas tous.
Alors mardi, c'est demain? Mardi, on est lundi aujourd'hui.
Donc, ils disent qu'ils vont nous envoyer derrière en Berrier, dans l'hôtel pour deux jours. Mais donc, nous, on ne peut pas rester là-bas, quoi, dans l'hôtel pour deux jours. Et puis, ils vont nous mettre au dehors, on n'a rien. Donc, tu vois, quoi.
Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que ce sont des gens qui, normalement, devraient être logés, les gens qui sont ici sous le kiosque.
Alors, tout à fait. Ils sont en procédure de demande d'asile. Du coup, ils dépendent d'Alpha 3A.
J'ai fait ma demande d'asile à Clermont-Ferrand. Et du coup, on m'a orienté à Bourg. Et j'ai été à Alpha 3A. Ils m'ont donné le papier qui prouve que ma domiciliation prouve Alpha 3A. Il n'y a pas d'hébergement. Et du coup, on a eu une tente. On a pu s'installer au kiosque. En premier temps, on a été emmerdé par la police municipale, une fois, deux fois. Et ils ont pris autre fois nos tentes, ils ont envoyé à leur base. Je suis allé récupérer avec Marie et Philippe. On est renvoyé ici encore et on s'est installé ici au kiosque. Et deuxième fois, c'était la police nationale. Et ils ont été au kiosque. Ils nous ont emmerdés ces jours-là et on les a expliqué nos cas et on a montré nos papiers qui prouvent qu'on doit être là. Du coup, ils nous ont compris, la police nationale nous a expliqué que c'est la mairie qui les envoie et donc que eux suivent les ordres. Ils nous ont délogés ces jours-là. Ils ont pris nos tentes, moi et mon ami, ils ont renvoyé. Et j'ai été à la poste, dans leur base, police nationale, j'ai été là-bas. J'ai demandé à l'accueil et il nous a dit qu'ils ont jeté nos tentes.
Donc vous ne pouvez pas récupérer vos tentes ni vos affaires personnelles?
C'était seulement les couvertures et les tentes.
Les abris, quoi.
Oui.
Comme vous êtes en demande de dette d'asile, est-ce que vous avez des papiers qui vous permettent de circuler?
Bon, pour l'instant, on a des papiers qui prouvent qu'on doit circuler dans toute la France. On a nos récépissés.
Bon, nous sommes là, ça fait un mois et plus même. Moi, je peux dire un mois et plus même. Et franchement, c'est pas quelque chose qui est très joli. Donc, on est venu ici en tant que des demandeurs d'asile. Et ce qui est dit dans les textes, on a le droit d'être logé, d'être nourri. Mais nous sommes là, ça fait un mois, il y a des gens qui ont fait un mois et plus, ou bien deux ans qui ont fait deux mois de plus. Ils sont là, on est dans des procédures. Et jusqu'à présent qu'on est là, on n'arrive pas à avoir de logement, on dort. Mais je pense que ça, que ce soit le préfet ou bien la mairie, c'est des gens qui prennent en charge des gens, des immigrés, quand même qu'ils fassent quelque chose. Parce que franchement, ça, c'est pas quelque chose qui est joli. C'est pas du tout facile. On est des Africains, mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Donc, on a le droit d'être hébergé en attendant qu'on poursuit notre dossier. C'est pas facile de passer pendant un mois ou bien tu ne sais même pas quand est-ce que ton procédure va terminer. Tu restes pendant tout ce temps dehors. Des fois, tu te lèves, tu n'as nulle part où aller pour prendre du bain ou bien à manger. Tu passes la journée, tu ne manges pas. Tu passes la nuit, tu ne manges pas.
À Bourg-en-Bresse, il y a des gens qui dorment dehors. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les 7 personnes dont on a parlé là. Et puis, cycliquement, il y a plein d'autres gens. Humainement, c'est pas possible. Après, il y a toute l'histoire des papiers et des régularisations et tout ça. Mais déjà, dans un premier temps, on se bat contre ça depuis des années avec le collectif Solidarité Migrants, depuis des années. Voilà, on nous répond toujours la même chose. La mairie ne peut pas s'en occuper puisque c'est pas son affaire. Elle renvoie sur la préfecture qui d'ailleurs vire tout le monde du kiosque ou d'ailleurs. Enfin bon, c'est très dur. Très dur pour les migrants, c'est sûr. On soutient aussi les autres qui ont fait déjà un bout de leur vie ici avec leurs enfants, des fois des enfants qui sont nés ici, qu'ils viennent des Balkans ou qu'ils viennent d'Afrique, ça n'a pas d'importance. Qu'ils soient là parce que c'est une question personnelle pour eux ou c'est une question globale de politique. Il y a de la place ici.
Vendredi 5 avril, une semaine après le reportage, un lieu inhabité a été réquisitionné par le collectif Solidarité Migrants pour permettre aux migrants à la rue d'avoir un toit.
Un reportage de Joël Garraud, reporter pour Radio B. La dizaine de migrants installés dans la maison inoccupée n'y est plus. Le propriétaire, la SEMCODA, s'est manifesté et a appelé la police. Ces jeunes viennent de Clermont-Ferrand. Là-bas, ils étaient logés par le 115. C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui les a envoyés à Bourg-en-Bresse. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas les moyens de les accueillir, précise Bernadette du collectif Solidarité des migrants. Et d'ajouter, ce sont des Dublinés, du nom du règlement de Dublin. En clair, les migrants doivent faire leur demande d'asile dans le premier pays où ils ont déposé leurs empreintes. Pour ceux de Bourg-en-Bresse, c'est soit l'Espagne ou l'Italie. La France a 6 mois pour les renvoyer dans le pays où ils sont arrivés. Si ce n'est pas fait, ils peuvent rester pendant des mois dans ce no man's land sans solution, indique Bernadette du collectif Solidarité Migrants.
Radio B.
Radio B.
Il y a quand même un élément qui a fait que je me suis plus tourné vers le bois. Justement, à l'âge de 14 ans, je suis allé au Poisat faire du ski de fond. Et on s'est arrêté chez un tourneur sur bois. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un tourneur sur bois. Je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. Et ce monsieur-là a pris vraiment le temps de nous faire sous nos yeux un petit coquetier tout simple. Et j'avoue, ça m'a interpellé, ça m'a vraiment plu. J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. Mon père était électricien. Et du coup, je me suis dit, mais c'est peut-être une orientation qui me plairait.
Restez à l'écoute du 90FM. Nous retrouvons Samuel Romain dans son atelier création bois. Les poissons rouges dans quelques minutes.
Sheets of paper turning to ashes. Now what is left is the little kid on his own. He's my zone, it's the same zone. The millions of kids living all alone. Rubble and tulips all around. Wake up in my zone, get in my zone.
this is a danger, a girl from a lip. I'm in pain, she's my love, but can't tell her. Cause she's there from a bomb that she made for her father's war. Dance as she plays, to be still alive. But get those eyes, a witness of too many deaths. Yeah, yesterday she started putting the air out. Mutilating herself, cause she hates life. When you hate yourself, sooner or later you would hate to death. Love for life, she don't know what it takes you. She just makes bomb all day long.
Kunta sur Radio B avec Aolad. Le groupe est en concert à la Cave à Musique ce samedi 13 avril. Gagnez votre place en écoutant Radio B. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Une fois par mois, en partenariat avec l'hebdomadaire La Voix de l'Ain, nous vous proposons une immersion dans le savoir-faire local. Aujourd'hui, on s'arrête à Meillona, à l'atelier création bois. Les pois sont rouges. Cette entreprise a été créée en 2017 par Samuel Romain. Il a repris l'atelier de l'ancien ébéniste installé de 1974 à l'an 2000. Il a gardé le volume de l'atelier et a installé une dizaine de machines. Aujourd'hui, il fait ce qu'il aime, un peu de création, un peu de dessin, un peu de contact fournisseur, beaucoup de fabrication. Et il s'interroge aussi sur ce qu'il va faire demain, avec qui il va essayer de travailler, c'est ce qui l'anime. Suivez-moi dans les coulisses de l'atelier. Tout commence, évidemment, avec un bout de bois.
Il y a quand même un élément qui a fait que je me suis plus tourné vers le bois. Justement, à l'âge de 14 ans, je suis allé au Poisat faire du ski de fond. Et on s'est arrêté chez un tourneur sur bois. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un tourneur sur bois. Je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. Et ce monsieur-là a pris vraiment le temps de nous faire sous nos yeux un petit coquetier tout simple. Et j'avoue, ça m'a interpellé, ça m'a vraiment plu. J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. Mon père était électricien. Enfin, et du coup, je me suis dit, mais c'est peut-être une orientation qui me plairait. Et voilà, du coup, bah, j'ai vu que pour être tourneur, fallait être ébéniste. Et en fait, je me suis rendu compte que la tournerie, j'aimais pas du tout ça. Mais ça, c'est pas grave. Et du coup, l'ébénisterie m'a vraiment beaucoup plu rapidement. Et après, j'ai fait une année de spécialisation en sculpture. Mais pourquoi le bois ? Bah, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je sais que ça me plaît beaucoup, quoi. Mais je sais pas. Quand je regarde ceux qui travaillent l'acier, je me dis, ça me plairait énormément. J'ai rencontré quelqu'un là qui travaille le verre. Je trouve que c'est fantastique aussi. Enfin, j'aime bien le travail de la matière, de toute manière. Ça, c'est sûr. Un usinage, bah, faire la machine qui est compliqué. Là, ça me prend 5 minutes à le faire. J'ai besoin de faire ça à la machine, bah, je vais me gratter la tête. Et donc là, voilà, on a besoin de la main et c'est chouette, quoi. Même dans des meubles plutôt contemporains, pas plus tard que le meuble que j'ai livré ce matin, il y a des raccords à faire à la main. C'est souvent, il y a des raccords à faire à la main. Et du coup, ça se fait avec, bah, avec ça, tous ces petits trousseaux. Là, j'ai une cinquantaine de gouges. Ce sont des outils qui servent à faire de la sculpture. On a des formes bombées, on a des formes plates contre-coudées, on a ce qu'on appelle des fermoirs, qui sont des formes droites des deux côtés. On a des méplates, on a des nérons, enfin, il y a différents types. Là, j'ai une cinquantaine de gouges. On peut en avoir beaucoup plus, mais c'est le minimum pour pouvoir répondre à peu près à tout, quoi. Travailler le bois amène cette réflexion de travailler en 3D, amène cette réflexion de travailler en relief. Vraiment, c'est un matériau qui a finalement peu de limites. Il y a des caractéristiques techniques, bien sûr, il faut les connaître. Il y a des contraintes techniques qu'il faut connaître aussi. Mais sinon, on emmène le bois où on en a envie, où on peut l'emmener. Ça, c'est ce qu'on appelle un rouleau ponceur. Voilà, ça permet de... Tout à l'heure, là, j'ai dégrossi donc une forme à la scie à ruban. Et avec ça, bah, ça permet de la poncer mécaniquement. Et quand on peut le faire, eh ben, c'est bien plus pratique qu'à la main. Et la première pièce que moi j'ai fabriquée, c'est une table basse. Et je dis que c'est pas simple parce que je l'ai faite bien sûr pour des amis, parce que c'est souvent les amis qui, on va dire, nous font confiance dans un premier temps. Et ils l'ont encore, cette pièce. Et j'avoue, je la regarde... C'est ma première pièce, quoi. Il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Et du coup, ça me fait plaisir, c'est que je vois que j'ai quand même évolué. Aujourd'hui, c'est une pièce que, pour moi, qui n'est pas vendable. C'est pas possible. Je la regarde d'un œil assez critique, quand même. Voilà. Il s'est passé quelques années.
Samuel Romain, le créateur de l'atelier Création Bois, les poissons rouges à Meillonnat. Les poissons rouges comme les pois, P-O-I-S, c'est un jeu de mots pas choisi par hasard. La réponse dans nos pastilles sonores ce vendredi 12 avril sur site de notre partenaire lavoisdelin.fr. Vous découvrirez aussi avec quel bois travaille Samuel Romain. Toujours ce vendredi, ne manquez pas dans l'édition papier l'article de Philippe Cornaton pour en savoir plus sur la naissance de l'atelier Les Poissons Rouges.
Radio B.
Qui sont les artisans de lin? Combien sont-ils? Vincent Gau est président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de lin. Pour les élections à la Chambre de métiers et de l'artisanat, vous étiez à la tête de la liste Fier d'être artisan. Quelle est votre définition de l'artisanat en 2019?
L'artisanat, en 2019, il a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors déjà, il est en pleine expansion, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 15 000 entreprises artisanales dans l'Ain. Mais l'évolution fait qu'on a de plus en plus d'auto-entreprises, de micro-entreprises. Près de 60% des artisans travaillent seuls. Plus de 20% ont des entreprises de moins de 5 salariés, et les 20% restants sont des entreprises de plus de 5 salariés. Donc un artisanat très dynamique, mais avec de très petites entreprises.
Donc on peut dire, Vincent Gau, les artisans dans l'Ain sont plutôt en évolution.
Les artisans dans l'Ain sont même en explosion, puisque l'année dernière, on a gagné près de 750 entreprises artisanales. Donc on a un flux très fort, avec une dynamique très forte. Mais étant donné qu'on a un département qui est très dynamique, ça se ressent automatiquement sur l'artisanat.
Comment on peut expliquer justement cette tendance où il y a plus de personnes qui se lancent dans l'artisanat?
Le statut simplifié de l'auto-entreprise, un premier élément. Le fait que les gens aujourd'hui, peut-être, le statut de salarié est peut-être des fois contraignant, donc des gens veulent s'essayer. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on sait que la durée moyenne d'un contrat de travail en France est à peu près moins de 3 ans, aujourd'hui on voit bien qu'il y a beaucoup de gens s'essayent et on changera d'employeur assez régulièrement ou on s'essaiera à être à son compte. Donc c'est, je pense, à la fois vrai en France et vrai dans notre département. Et en plus, dans notre département, c'est encore plus vrai parce qu'une dynamique très très forte, puisqu'on gagne à peu près 8000 habitants par an. Donc pour tous ces habitants, ben, il y a besoin d'artisanat, il y a besoin de commerce de bouche, il y a besoin d'entreprises du bâtiment, etc. Donc un besoin fort et une simplification des démarches.
Est-ce que les métiers de l'artisanat tentent les plus jeunes? On pense, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui choisissent l'artisanat au lieu de choisir de faire des études supérieures?
Alors, on sent un frémissement, mais on souffre réellement d'une politique générale depuis 50 ans, c'est-à-dire on a décrié les métiers manuels très clairement. Donc aujourd'hui, les parents, la génération des parents, les enfants, il ne fait pas bon d'être plombier. Hein, c'est quand même, il vaut plutôt être médecin dans la mentalité, dans la tête de beaucoup de parents. On sent un changement, mais maintenant. Hein, on sent un changement parce que le gouvernement a quand même remis l'apprentissage au centre du débat. Il y a du travail dans les entreprises artisanales, puisque moi je le dis souvent, mais si toutes les entreprises artisanales de France trouvaient le salarié qui leur manque, il n'y aurait plus de chômage en France. C'est la réalité. Donc on sent qu'il y a du boulot, donc automatiquement, on sent que ça commence à frémir. Mais on a encore un gros travail, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'instant T, les entreprises artisanales, quelles qu'elles soient, recherchent du monde, et aujourd'hui ne trouvent pas, parce que tous les jeunes qu'on forme maintenant, qui arrivent, qui viennent par passion chez nous, seront prêts dans une dizaine d'années.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter les jeunes à se tourner vers les métiers de l'artisanat? Je vous parlais de l'image, je pensais plus à ça. C'est vrai que l'artisan, on met en avant son savoir-faire, mais comme vous l'avez dit, c'est parfois compliqué de se dire bon, bah, c'est par choix que je vais choisir un métier d'artisanat.
Alors, nous, on met en place beaucoup de choses. On fait de la sensibilisation dans les collèges, pour expliquer un petit peu les métiers. On a mis en place depuis l'été dernier l'éveil aux métiers. Hein, tous les mercredis après-midi, les enfants, les jeunes, comme ils vont au foot ou à notre activité, viennent à la chambre des métiers découvrir 12 métiers, du métier de coiffeur à autre. Donc c'est une sensibilisation. Donc ça fait partie des actes forts qu'on met en place. C'est les métiers d'art encore sur la semaine dernière où on montre un petit peu aux jeunes et aux passants dans tout le département ce que c'est l'artisanat d'art et ce qu'on peut faire. Enfin voilà, donc pour moi ça passera par la sensibilisation dans les écoles, dans les collèges. Dire aussi que dans l'artisanat, c'est plus la pénibilité qu'on peut avoir, hein, c'est fini le maçon qui porte des sacs de 50 kilos sur le dos, qui est complètement éreinté. Aujourd'hui, il y a des moyens de levage, il y a tout ce qu'il faut. Et on peut, donc notre rôle à la Chambre des métiers, c'est de montrer tout ça. C'est que les métiers de l'artisanat ont changé et qu'aujourd'hui, on peut s'éclater, bien gagner sa vie, hein, parce que ça aussi, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, un plombier chauffagiste aujourd'hui gagne plus que quand vous travaillez en grande surface à mettre dans les rayons. C'est une réalité aussi. C'est-à-dire que les métiers de l'artisanat gagnent bien, on gagne bien sa vie, et en plus, on se fait plaisir et on fait du bien aux gens.
Vous avez donc parlé de l'apprentissage. Vous allez rencontrer Laurent Wauquiez, donc le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quel sera le sujet ?
Alors sur l'apprentissage, il y a beaucoup de changements, puisque la loi, en tout cas le gouvernement, avant l'apprentissage, si vous voulez, c'était les régions qui s'en occupaient. C'était une compétence de la région, Auvergne-Rhône-Alpes pour nous. Maintenant, c'est les branches, c'est-à-dire les organisations professionnelles des métiers, qui vont récupérer la gestion de l'apprentissage au sein d'une même entité qui s'appelle France Compétences, hein, qui sera à Paris et qui sera gérée par l'État en lien avec l'ensemble des branches professionnelles. La région, elle, ne va plus donc gérer l'apprentissage, sauf une certaine péréquation, c'est-à-dire d'avoir encore un budget qui lui permettra d'aider dans des départements qui ont plus de difficultés à faire tourner les centres d'apprentis. Mais surtout, les régions vont reprendre l'orientation. C'est-à-dire que demain, très rapidement, les CIO, par exemple, ne seront plus sous tutelle de l'éducation nationale.
Les CIO ?
Les centres d'information et d'orientation, donc tout le monde connaît ou a connu, seront sous l'égide, seront sous tutelle de la région. Donc ce qui va changer beaucoup de choses pour nous, parce que la région a cette volonté de remettre l'artisanat au centre des préoccupations des jeunes et des enfants.
Une bonne nouvelle.
Pour nous, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il va y avoir une déconnexion. Alors, les CIO ont jusqu'à maintenant plutôt très bien fait leur travail, mais à un moment donné, je pense que l'orientation, elle doit aussi se vivre. Et c'est le monde économique, entre guillemets, qui reprend cette orientation et les régions, ça va peut-être permettre de nous remettre au centre du jeu et que les enfants, les futures générations puissent vraiment avoir vraiment une vraie connaissance de ce que c'est que l'artisanat et les métiers.
Vincent Gau, quel est le profil des artisans de l'Ain ? Faire un petit panorama des artisans qu'on peut trouver dans notre département.
L'artisanat dans l'Ain, c'est 40% à peu près d'entreprises du bâtiment. Après, les 60% restants, 30% qui se répartissent sur l'alimentation de détail. Et puis après, les métiers de service. Il y a 250 métiers dans le département de l'Ain, dans l'artisanat. Voilà un petit peu. Donc ça va du prothésiste dentaire au fleuriste, à l'artisan boucher, à la coiffeuse. Donc c'est tous ces métiers de proximité. Alors il faut savoir, je le dis souvent, que dans l'Ain, il n'y a que 4 communes qui n'ont pas d'artisans. Donc les artisans sont partout autour de nous, autour de vous. Et sans l'artisanat, il n'y aurait plus de communes, il n'y aurait plus de vie, il n'y aurait plus de proximité sur un territoire. Et ça, et je pense que ça, nos politiques ont des fois peut-être tendance à l'oublier.
Vincent Gault, concrètement, en quelques mots, ça sert à quoi une chambre de métier de l'artisanat ?
Alors, la chambre de métier, elle fonctionne, tous les artisans de France payent une sorte de taxe. Qui a plus d'une centaine d'euros, c'est obligatoire. Alors, la chambre des métiers, c'est la voix de l'artisanat auprès des pouvoirs publics. Elle gère aussi la création d'entreprises, c'est-à-dire quand vous vous mettez à votre compte, hein, vous allez au centre de formalité des entreprises, on aide à faire le dossier, tout simplement. Donc c'est la première des étapes qui est obligatoire. On a un stage, donc le stage préalable à l'installation, vous venez 4 jours en chambre des métiers pour qu'on vous donne un petit peu, pas vous apprendre votre métier, vous le connaissez, mais plutôt vous apprendre l'environnement de l'entreprise, parce que c'est pas si simple que ça. Il y a des caisses, il y a plein de choses à payer, à savoir, donc notre premier rôle, il est là. Le deuxième rôle, il est d'aider au développement des entreprises, c'est-à-dire qu'on a tout un panel de formations, hein, on fait près de 27 000 heures formation par an à la Chambre des métiers de l'Ain. Donc des formations de développement, ça va de l'Internet, ça va à la création d'une e-boutique, ça va sur les logiciels Word, etc. Et puis après, on est là aussi à la fin de l'entreprise, c'est-à-dire à la transmission de l'entreprise quand il y en a une. On aide les gens à transmettre leur entreprise, à les clôturer, à les aider quand elles ont des réelles difficultés, puisque notre force, c'est d'avoir des liens avec tout ce monde-là, hein, que ce soit les caisses, hein, les caisses de retraite, etc., et d'aider l'entreprise, en fait, tout au long de sa vie. Et donc, moi, je suis un artisan, nous sommes élus par nos pairs, les 15 000 entreprises artisanales votent une équipe qui essaye de mettre en œuvre une politique au service de nos artisans.
Vous avez dit donc que vous accompagnez les artisans quand ils rencontrent des difficultés. Quelles sont les difficultés rencontrées par les artisans de l'Ain ?
Alors la première des difficultés, c'est d'avoir imaginé la création d'entreprise, mais que la réalité est tout autre. C'est-à-dire que très rapidement, au bout de 2 ans, on le voit de plus en plus. C'est que la plupart du temps, comme c'est tellement facile de se mettre à son compte en 3 clics, en règle générale, au bout de 2 ans, ils prennent 3 claques. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a des impôts à payer, qu'il y a un environnement qui est quand même assez contraint. Donc là, la première difficulté, elle est là. Après, la deuxième, c'est de durer dans le temps. Je vous disais tout à l'heure, 7 ans de moyenne de durée de vie d'une entreprise, donc c'est assez court. C'est-à-dire qu'il y a aussi le contexte, quand on est artisan, c'est des métiers de passion. La vie de famille en prend un coup, c'est clair. Hein. Donc dans les familles, il y a beaucoup d'épouses ou d'époux qui ne veulent pas accepter tout ça. Donc ça crée aussi une onde de choc dans la famille. Et puis après, le fait de l'argent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réinvestir, mais il faut avoir créé un vrai business plan, etc. Donc en fait, je pense que la difficulté, c'est de se rendre compte au bout de 2 ans la réalité du contexte d'une création d'entreprise qui est loin d'être rose. Ça peut être passionnant, mais il y a des impairs à ne pas faire, et la gestion aujourd'hui est aussi importante que la qualité professionnelle de l'artisan.
Donc ça, ce sont des difficultés qui touchent un petit peu les artisans partout en France, mais est-ce qu'il y a des difficultés propres à l'Ain ?
À l'Ain, la première difficulté, c'est le recrutement. C'est-à-dire que très clairement, quand on a un taux de chômage qui est le 4e plus bas de France, à moins de 6%, aujourd'hui, c'est une vraie difficulté, puisque si vous ne pouvez pas faire le travail, si vous ne pouvez pas recruter, vous ne pouvez pas faire le travail, vous ne pouvez pas répondre à vos clients, donc vous les perdez. Donc c'est une difficulté qui est énorme dans notre département.
Et pour vous, en quelques mots, ça serait quoi les solutions qu'il faudrait apporter aux artisans de l'Ain, Vincent Gault ?
La première des solutions, c'est qu'on arrive très rapidement à former des gens. Alors pour ça, on essaye de travailler avec Pôle emploi, avec tous les organismes. Par exemple, on gère, nous, le CECOF, le Centre de formation des apprentis d'Ambérieu, la Chambre des métiers. Aujourd'hui, on a 171 places de cuisiniers. On a 2 jeunes à mettre en face, en apprentissage. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à travailler pour trouver ces jeunes et trouver des solutions, trouver des gens pour venir dans nos métiers. Voilà, rapidement, ce serait la solution. Mais aujourd'hui, on l'a encore pas.
Vincent Gault, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain. Toutes les infos pour vous lancer comme artisan ou sur l'apprentissage, c'est sur le site cma-1.fr.
Radio B. Radio B.
Quelques infos en bref. Des professeurs des écoles et des parents demandent toujours l'abandon du projet de loi Blanquer. Nouvelle assemblée générale départementale, mercredi 10 avril. Je cite le communiqué. L'AG appelle à multiplier les réunions et à constituer des comités d'action avec enseignants, parents, élus, syndicats. L'AG soutient les collègues en grève. Le printemps des retraités, plusieurs organisations appellent à une manifestation revendicative à la rencontre des élus. Ils donnent rendez-vous place de la mairie de Bourg ce jeudi 11 avril à 10h avant de faire le tour des permanences des députés et des sénateurs et de rejoindre la préfecture. Autre mobilisation, cette fois pour la défense de manifester, journée nationale samedi le 13 avril. À Bourg-en-Bresse, un événement est prévu, mais la date est encore à définir. Ça sera le vendredi ou le samedi. Historique et actualité de la question kurde, l'association laïque Libre Pensée de Bourg-en-Bresse propose une conférence débat. Elle sera animée par Raphaël Lebruja, journaliste, auteur de « Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne ». C'est ce vendredi 12 avril à 20h à la Maison de la vie associative à Bourg-en-Bresse. L'entrée est libre. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Joël et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.